les performances du métro sur pneus se révèlent nettement supérieures à celles du métro classique.
Madame, monsieur, bonsoir. La première classe dans le métro, trois bonnes raisons pour la supprimer et la classer au rayon souvenir.
Cette mise en service de Météor est un véritable événement. C'est la première ligne de métro créée depuis 1935.
Train de vie sur RCN, Martin.
Bonjour à tous et bienvenue dans Train de vie. Les voitures roulent avec des pneus. Ce n'est pas un scoop. Mais un train avec des pneus, vous allez me dire, ça n'existe pas. Eh bien, figurez-vous que ça existe, mais pour le métro. Le métro pneumatique, c'est de cela dont on va parler aujourd'hui. Le métro pneumatique est loin d'être une nouveauté. Les premiers essais se déroulent à partir de 1951. Mais comment fonctionne un métro sur pneus? Les pneus roulent sur des pistes de roulement, comme sur des rails, mais en beaucoup plus large. Mais pour la direction alors, le train n'est pas en roue libre, rassurez-vous.
La direction des voitures est assurée par des pneus horizontaux de guidage qui s'appuient sur des barres parallèles.
De cette manière, les pneus restent donc sur les rails plats pour faire rouler la rame. Lors d'un virage, les pneus suivent la courbure des barres latérales de guidage. La rame reste donc guidée tout le long du parcours. Quels sont les avantages d'avoir un métro pneumatique? Trois avantages. Premier avantage, plus d'adhérence, donc gain de temps. Les lignes de métro possèdent en effet des arrêts très rapprochés, et c'est un autre avantage qu'apporte à ce sujet le métro pneumatique.
Chaque fois qu'une rame de métro sur pneu dessert une station, aux secondes gagnées par le freinage puissant et le temps réduit de stationnement, s'ajoute celle grignotée grâce à une accélération rapide qui la fait bientôt parvenir à une vitesse maximum aisément maintenue pendant la marche en tunnel. Toutes ces secondes additionnées représentent un substantiel gain de temps qui permet de réduire l'intervalle entre deux trains et, en conséquence, l'attente des voyageurs sur les quais des stations.
Et on chiffre environ à 10% le gain de temps gagné par rapport à un métro classique. Ensuite, la réduction du bruit. Le bruit est réduit et on peut franchir des pentes plus importantes grâce à l'adhérence du pneu ainsi que des combles plus serrés. Mais avec les progrès technologiques, les nouveaux trains sur roues en fer sont moins bruyants que les pneus. Enfin, les rails ont besoin d'être moins entretenus car les pneus génèrent moins de vibrations et donc les détériorent moins vite que les rames classiques. On débute les essais du métro pneumatique en 1951 avec la rame d'essai MP51 pour matériel pneumatique de 1951. Pour ce faire, une voie désaffectée située dans le nord-est du réseau est convertie pour accueillir la rame d'essai. Il s'agit de la voie nommée Voie des Fêtes qui relie deux stations, de la Pente des Lilas au Pré Saint-Gervais un peu plus au nord. Après quelques essais de cette rame sans voyageurs, cette voie des fêtes est ouverte au public pour faire des tests de métro pneumatique avec voyageurs. Cette navette circulera de 1952 à 1956 uniquement l'après-midi. Il ne s'agit pas de faire du service commercial avec des voyageurs sur cette voie des fêtes. Il s'agit tout d'abord d'essais, la fréquentation reste alors très faible. Après les essais concluants, il faut désormais convertir des lignes entières au pneumatique. Et c'est la ligne 11 qui sera la première servie en raison des fortes pentes et du parcours sinueux de la ligne. Après 2 ans de travaux d'adaptation de la ligne, essentiellement de nuit, la ligne reçut ses premières rames pneumatiques. Ces rames sont une adaptation de la rame d'essai de la voie des fêtes. Les rames à roulement en fer et celles de roulement pneumatique cohabiteront environ 1 an avant le retrait complet des rames fer sur cette ligne en 1957. La ligne 11 devient alors la première ligne convertie au métro pneumatique. Pour fêter cet événement, les tickets de métro ainsi que les couvertures de plan font la publicité du métro pneumatique qui arrive pour la première fois au monde le 8 novembre 1956. Suite au succès de la conversion de la ligne 11 à la technologie du pneumatique, la RATP envisage alors, pour la fin des années 90, de pneumatiser tout le reste du réseau. D'abord les lignes les plus fréquentées. La RATP commence par la ligne 1, qui est la plus fréquentée du réseau, entre 1963 et 1964. La ligne 4 suit ensuite, car elle est également une des plus fréquentées, en 1966 et 1967. Enfin, la ligne 6 se pneumatise entre 72 et 74. Cette ligne est moins fréquentée que les deux précédentes, mais étant donné que la ligne est à 45% aérienne, la plus aérienne de Paris, elle génère beaucoup de nuisances sonores pour les riverains. De plus, une ligne aérienne est impactée aux conditions climatiques, et le pneu permet une meilleure adhérence qu'une roue en fer. Après cette ligne, le projet de la pneumatisation des autres lignes est abandonné provisoirement en raison du coût très élevé de l'opération, et qui n'est pas forcément utile sur les lignes avec un trafic modéré voire faible. Pourtant, la pneumatisation du réseau ne s'arrête pas là. En effet, la dernière ligne construite du métro parisien, la ligne 14 inaugurée en 1998, est une ligne pneumatique. En effet, dès la conception de la ligne, la technologie du métro pneumatique est retenue pour plusieurs raisons. Cette ligne tout d'abord sera entièrement automatique, c'est-à-dire sans conducteur. Et pour faciliter la mise en place de la ligne en mode automatique, le pneumatique y sera installé, car il y a plus d'adhérence, donc il est plus facile de contrôler le train. Ensuite, la ligne est adaptée dès son origine avec des courbes assez faibles et un parcours propice au métro pneumatique. La ligne 14 sera donc pneumatique et sera la dernière ligne qui soit convertie ou inaugurée en mode pneumatique. Partout dans le monde, des lignes pneumatiques sortent de terre. On en compte plus d'une cinquantaine. On en trouve au Canada, en Chine, aux États-Unis, au Japon, au Mexique et en Corée. En France, il y en a dans d'autres villes comme Lille, Lyon, Marseille, Rennes ou encore Toulouse. Il reste quelques lignes en construction en mode pneumatique, mais il devient de moins en moins intéressant d'utiliser cette technologie. Mais pourquoi arrêter le pneumatique ? Le coût d'opération est élevé et l'utilisation en fonction du trafic est parfois discutable. La technologie du pneumatique a aussi ses limites. Finalement, le bruit n'est pas si limité que ça. Cette technologie devait limiter les nuisances sonores, mais en réalité, à part les crissements dans les courbes qui sont moindres, le bruit est aussi voire plus important qu'un métro sur roue en fer. De plus, depuis les années 90, on sait désormais faire aussi bien en termes de réduction de bruit et de performance avec des matériels fer que pneus. Dans les années à venir, le Grand Paris Express, qui est un projet de 200 km de ligne automatique, sera beaucoup plus rapide avec des vitesses de pointe à plus de 110 km/h, contre 80 aujourd'hui. Et le métro pneumatique ne permet pas d'atteindre de telles vitesses. Ce sera donc des rails en fer. Attention, cela ne signifie pas que le métro pneumatique est un échec. Les lignes pneumatiques sont très très performantes. Il serait impensable de les reconvertir en métro classique sur roues en fer. Mais pour les futures lignes, les technologies permettent aujourd'hui d'obtenir les mêmes résultats avec du fer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Train de vie s'achève. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, pour parler de la dernière année du métro parisien, la ligne 14. Cette ligne est révolutionnaire sur beaucoup d'aspects et c'est de cela dont on va parler la semaine prochaine. Cette chronique ainsi que les précédentes sont disponibles en podcast sur rcn-radio.org et moi je vous dis à bientôt dans le métro.